Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au menu de ce nouveau numéro exceptionnel de Chut, on écoute la télé qui sera très cinéma aujourd'hui avec pas moins de 3 coups de cœur ciné qui sortent mercredi dans les salles. On va recevoir l'équipe de 20 dieux. Louise Courvoisier et Mayouen Barthélémy seront nos invités. On va également recevoir Baptiste Le Caplin à l'occasion de la sortie du film Jamais sans mon psy également. Et puis Louis Garrel également pour la première fois dans Chut, on écoute la télé viendra nous parler de la sortie de Saint-Ex. Béatrice Delaboulé viendra nous parler également de son spectacle, un rendez-vous à ne pas rater en tournée partout en France jusqu'en mars. Et puis on va également recevoir aujourd'hui Nadia Rose qui est à l'affiche de la série Nos meilleures années sur M6. Elle sera également en tournée tout au long du premier semestre 2025 en spectacle avec La fille du 7e. On va donc pas s'ennuyer, vous l'avez compris aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Et puis en exclu podcast aujourd'hui, on va également recevoir Andrea Bescon et Malou Kebizi à l'occasion de la sortie il y a quelques jours du film Diamant Brut au cinéma. Un film à ne pas rater s'il est encore en salle près de chez vous. On va en parler aussi d'ici quelques minutes. Alors c'est parti, commence à s'installer juste à mes côtés. Louis Garrel débarque maintenant dans Chut, on écoute la télé pour démarrer cette émission.
Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, c'est notre coup de cœur cinéma dans les salles ce mercredi, Saint-Ex qui débarque en ce mois de décembre avec Louis Garrel dans le rôle titre aux côtés de Vincent Cassel. Bonjour Louis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Saint-Ex, une épopée absolument incroyable, un personnage hors du commun, je crois qu'on peut dire.
Ouais, un personnage fantastique qui était un écrivain, un intellectuel et en même temps très manuel parce que, et c'est ce que le film raconte, il a passé beaucoup de sa vie, quand même du temps de sa vie, dans des avions qui à l'époque n'étaient pas du tout des Airbus ou des Boeing, qui étaient des espèces de petites carlingues avec des ailes et des moteurs un peu approximatifs, donc Saint-Ex. Nous, ce qu'on raconte dans le film, c'est qu'en Patagonie, il a livré le courrier et donc il partait, il fait partie des pionniers de l'aviation à livrer le courrier alors qu'il était un intellectuel et qu'il aurait pu rester chez lui à écrire, mais ce qui l'intéressait, c'était de voir le monde vu du ciel, vivre dans son avion et ensuite le raconter. Alors c'est même antérieur à l'écriture du Petit Prince. Il y a quand même un jeu avec les inspirations qu'il a pu avoir pour le Petit Prince dans ses voyages différents en Patagonie. Et c'est surtout aussi, le film raconte son amitié avec Guillaumet, qui était une sorte d'idole de Saint-Exupéry, parce qu'il était, dit-on, le meilleur pilote de sa génération, avec qui il livrait le courrier. Voilà, donc on s'est amusé à faire ce film qui est une espèce de film de rêve, quoi. Sur moi qui ai toujours voulu voler, par exemple, j'étais très content de ne pas vraiment voler, parce qu'on l'a fait en studio, parce que je suis un phobique de l'aviation. C'est quand même un comble.
C'est ça, le métier de comédien. Et c'est vrai qu'Henri Guillaumet lui décide pour essayer de sauver, hein, en gros, l'aéropostale, de gagner du temps et d'essayer de traverser la cordillère des Andes. Et puis, ben voilà, il disparaît. Saint-Ex va tenter de partir, en tout cas, à sa recherche. Et c'est toute cette épopée aussi que raconte, du coup, le film.
Oui, parce qu'en fait, à cette époque-là, ils étaient donc la compagnie Aéropostale qui avait un très joli slogan qui était « Le courrier est plus important que la vie ». Et donc, ils étaient en compétition avec le train, puisque le train était des fois plus rapide qu'eux, mais l'aviation évidemment non, mais le train savait voler la nuit. Et en fait, Guillaume, dans le film, décide de passer la cordillère des Andes et de voler, en tout cas d'essayer de voler plus haut que les avions sont capables de le faire, et en fait, il se casse la gueule, et en fait, tout le film, son ami Saint-Exupéry va essayer de remettre la main sur Guillaume, qui est joué par Vincent Cassel. Et ça, c'est une histoire vraie, c'est-à-dire Guillaume est resté plusieurs jours dans la neige, et on l'a retrouvé vivant, ce qui est un miracle, quoi.
Et pour les fans du Futuroscope, qui ont peut-être vu Les Ailes du Courage, qui est un film qui a été un événement pendant des années là-bas, évidemment, on a pu découvrir déjà une partie de cette histoire, mais là, qui a été développée de façon beaucoup plus détaillée.
Oui, voilà, exactement. Moi, Les Ailes du Courage, je l'ai jamais vu, d'ailleurs. J'avais pas vu le film. Moi, ce que j'avais vu ce que Pablo Aguero, le metteur en scène du film, m'avait fait écouter, c'est un disque vinyle que Antoine de Saint-Exupéry avait envoyé à Jean Renoir, parce qu'il souhaitait que Jean Renoir mette en scène une partie de sa vie, enfin, en tout cas, un épisode de sa vie, je sais plus lequel, pardonnez-moi. Et donc, on entend Saint-Exupéry qui parle, et c'est pas du tout quelqu'un qui a la voix chevrotante, ou qui est très timide, ou il avait une espèce d'exubérance, une sorte de, je sais pas, un paysan intellectuel, quoi. Vraiment, il avait beaucoup de charme. Et c'est ça que m'a demandé d'écouter le réalisateur, parce qu'on a très peu d'archives de Saint-Exupéry. Ce genre de personnes, ils se sont pas beaucoup montrés dans leur vie.
Et puis avec un sens de l'amitié, profond, son amitié avec Henri Guillaumont, il était prêt à risquer sa vie, même si au début il a hésité, mais il a été prêt à risquer sa vie pour le retrouver. Hein.
Ah oui, c'est ce qui m'a plu dans le film, c'est que puis ensuite c'était interprété par Vincent Cassel avec qui je suis ami dans la vie, et donc ça nous faisait rire de raconter une histoire très, ouais, presque une passion entre deux hommes comme ça et qui ont la même aventure commune, quoi, la Patagonie de l'Aéropostale.
Comment on se prépare un rôle comme celui-là, Louis?
Bizarrement, je me suis pas tant préparé que ça. Je me suis préparé à lire un peu des passages de Saint-Exupéry ou les récits qu'il fait juste après être descendu d'avion. C'est ça qui est assez, enfin, c'est ce que je m'imagine, mais c'est ce qui devait être, à mon avis, la vérité. C'est-à-dire que juste en descendant d'avion, et là, il écrit ce qu'il a vu, quoi, ce qu'il a, et donc c'est en lisant un peu les textes de Saint-Exupéry. Mais après, comme je savais que le film était vraiment un rêve, je me dis, je me laisse porter par ce metteur en scène argentin qui va regarder Saint-Exupéry d'une autre manière que les Français le font, parce que les Français, ils sont quand même très... L'angle toujours d'approche de Saint-Exupéry, c'est le Petit Prince. Lui, c'était encore autre chose. Il vient d'Argentine, Pablo Aguero, et donc il est parti six semaines avant le tournage qu'on a fait à Paris, en Argentine, pour aller filmer le plus possible d'images. Il est monté dans des hautes montagnes, il est jusqu'à moins 40 degrés, donc il est revenu, il était complètement ébahi par ce qu'il avait filmé. Donc je me suis laissé porter par lui, à dire vrai. Je me suis pas préparé spécialement, parce qu'il m'a pas demandé d'être mimétique ou d'essayer de ressembler même physiquement à Saint-Exupéry. Il y avait l'idée que ce type-là est complètement dans les nuages, un peu naïf, un peu décalé, et donc il fallait trouver sans cesse cette espèce de ce mélange de sûreté de soi pour pouvoir oser monter dans une boîte de conserve qui a des ailes, et en même temps assez de folie ou même de sens un peu pas grand sens pragmatique pour pouvoir le faire. Voilà.
Ça donne d'ailleurs que ça soit le travail sur l'image qu'a fait Pablo, ça donne quelque chose de très poétique.
Très, il y a un décalage, le film il est pas du tout naturaliste, mais tout ce qu'on voit à l'écran a été filmé par Pablo, c'est-à-dire on voit, il y a des vols avec des condors, il y a des montagnes enneigées, il y a des lacs gelés, tout ça a été filmé, même l'acteur, lui, on le voit comme qu'il n'y a pas participé. Donc il y a une espèce de décalage qui fait que le film il est très à la Méliès, quoi. Il a un côté artisanat de... Évidemment, maintenant, il y a des responsables des effets spéciaux qui ont plus d'outils que on avait Méliès, mais en tout cas, il y a cette espèce de ce collage un peu poétique que voulait le metteur en scène.
Vous êtes bien entouré avec Diane Kruger, notamment aussi, qui joue le rôle de Noël, aussi, qui est un personnage qui a énormément compté pour Henri Guillaumet.
Qui est la femme de Guillaumet et qui, tout le temps du film, est coach de Saint-Exupéry pour le pousser à continuer, à ne pas désespérer, à espérer encore retrouver son mari, Henri de Guillaumet, ouais.
Il fait partie du patrimoine littéraire français, évidemment, aujourd'hui. Est-ce que la volonté, c'est peut-être aussi d'aller montrer le film dans les écoles, dans les lycées, aujourd'hui, d'essayer de faire vivre un texte, tout simplement, de façon à transmettre aux jeunes aussi?
De toute façon, n'importe quel film j'espère toujours qu'il soit montré dans les écoles, parce que moi, les souvenirs que j'ai des films que j'ai vus à l'école, que ce soit au collège ou au lycée, ils sont marqués en moi de manière indélébile. C'est les plus beaux souvenirs.
Ça marque mieux, hein?
Ah ouais, ça marque mieux. Il faut prendre les spectateurs le plus tôt possible pour essayer qu'ils nous oublient pas.
Non, mais ça c'est une certitude quand on est à l'école et qu'on nous apprend quelque chose avec de la fiction ou un film, on rentre beaucoup plus dedans et ça reste dans notre esprit et ça c'est plutôt beau quoi. Et c'est ce que vous nous apportez vous aussi comédien du coup.
Moi je me souviens de Fahrenheit 451 montré par Madame Christiane Durand qui est toujours avec qui je suis toujours ami, qui était ma professeure de français en troisième. Je me souviendrai à vie de cette projection sur un petit téléviseur. Elle voulait de montrer les régimes de dictature qui interdisent la littérature et qui censurent. Et donc c'est magnifiquement raconté par Truffaut, j'en ai un souvenir encore impérissable.
Génial. Les projets pour 2025, puisque là on arrive bientôt à Noël. J'imagine que l'année 2025 est pleine de projets.
Ouais, pas mal. Je vais normalement travailler avec Kirill Serebrennikov. Ça, c'est un metteur en scène russe que j'aime beaucoup. Et je pense qu'on va aller en Lettonie tourner ça. Ensuite, je vais tourner probablement dans une adaptation d'un livre d'Edith Wharton qui s'appelle Les Beaux Mariages. Voilà, il y a un personnage de français là-dedans. Et ensuite, avec Toledano et Nakache, vous voyez les réalisateurs.
Le prochain Toledano et Nakache.
Ouais, voilà, exactement. Et ça, on va faire ça à Paris, un film qui se passe dans les années 80.
Génial, ça va nous rappeler plein de souvenirs à nous les cinquantenaires, hein. Je le dis. Hein.
J'espère bien.
Bon Louis, merci en tout cas d'avoir été avec nous. Syntex, ça sort mercredi au cinéma. On ne le rate pas, on va apprendre plein de choses en tout cas sur ce personnage courageux, téméraire, je crois qu'on peut le dire aussi, et puis qui fait partie de notre patrimoine littéraire, de notre histoire, voilà, de France. Merci beaucoup.
Merci à vous.
À bientôt.
À bientôt, au revoir.
Si le train, notre ennemi, on sera jamais rentable.
Faut qu'on bricole un truc. Faut qu'on passe au-dessus de la cordillère.
J'ai une idée.
Tant que c'est moi qui pilote.
Syntex.
Guéret.
Danke, Gino. On est là.
Guillaume de Noël, à vous.
Desapareció en la cordillera.
Vous êtes comme un frère pour lui.
Saint-Exupéry, si vous partez le chercher, vous détruirez votre avion. Selon vous, qu'est-ce qu'il aurait fait à votre place ?
Il m'aurait sauvé, monsieur.
Allez, ne bougez pas. Nadia Rose, Béatrice Delaboulée, l'équipe de Vindieu, Baptiste Le Claplin nous rejoignent dans Chut, on écoute la télé. Alors à tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio. Chute, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chute, on écoute la télé. Chute, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Et notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré à Vindieu qui sort au cinéma mercredi dans les salles. On a la chance d'avoir sa réalisatrice Louise Courvoisier qui est avec nous. Bonjour Louise.
Bonjour.
Merci d'être avec nous et Maïwenn Barthélémy qui est avec nous aussi. Bonjour Maïwenn.
Bonjour.
Merci d'être là. Louise, c'est une histoire de fromage en quelque sorte, mais pas que. Je crois que tu avais une grande envie de filmer ton pays, le Jura. C'est un de mes fromages préférés, le Comté en plus. Alors c'est toute une histoire qui se déroule effectivement sous fond de drame avec Totone qui doit s'occuper de sa petite sœur de 7 ans et qui pour essayer de gagner de l'argent va s'inscrire à un concours général agricole en essayant de fabriquer le meilleur Comté qui va être primé avec 30 000 euros à la clé. Et évidemment, il va aller du côté de chez Maïwenn. Alors la particularité quand même de ce film, c'est 98% des acteurs ne sont pas professionnels et ça se voit pas. C'est un tour de force incroyable, Louise.
Oui, moi c'était très important dès le début du projet. Il y avait pas d'idée de prendre des acteurs non professionnels, enfin des acteurs professionnels à aucun moment. J'avais envie qu'on entende l'accent, j'avais envie que ce soit vraiment ancré dans le territoire jusqu'au casting. Et c'était un challenge pour moi comme pour eux parce que mon premier long métrage avec des acteurs non professionnels, voilà, et c'était ambitieux quand même. Donc c'était un long casting où je suis allée rencontrer beaucoup de gens dans des lycées agricoles, voilà, dans des fêtes de village, un peu partout où je pouvais. Chacun des personnages a été une évidence quand on s'est rencontrés avec Maïwenn par exemple ou avec Clément, et ils ont été tout de suite très naturels avec le jeu. Donc ça, on est parti d'une base voilà très forte de, ils jouaient déjà naturellement très bien. Et ensuite on a travaillé ensemble pour que les scènes leur ressemblent, les dialogues leur ressemblent. Donc c'était vraiment un travail d'équipe entre moi et les comédiens, quoi.
Est-ce que on a quand même la trouille et puis une fois qu'on voit les premiers rushs, ça libère un peu tout ça quand même?
Alors ça fait très peur et en plus je pense que je mesurais pas à quel point ça allait être ambitieux en fait de faire ça. Je pense que si j'avais réalisé, je sais pas si je l'aurais fait comme ça parce que en fait c'était tellement naturel pour moi d'y arriver. Enfin, je me suis dit, il faut qu'on aille jusqu'au bout de ce projet. Et en fait, c'était incroyable comme expérience parce que je me suis adaptée en fait un peu à leur personnalité. Et chaque relation, chaque manière de diriger était différente. Donc c'était très instinctif parce que j'avais jamais fait ça non plus, eux non plus. Donc on a trouvé ensemble. Et ça, c'était fascinant en fait. C'était vraiment un travail humain où, voilà, en fonction des peurs des uns, des autres, on essayait de trouver la meilleure manière de travailler ensemble. Et je me suis rendu compte que c'était pas tant diriger les acteurs que d'apprendre à se connaître assez bien pour s'emmener dans quelque chose de confortable dans le jeu et de trouver les personnages ensemble. Donc en fait, c'était très ambitieux. Ça a pris beaucoup de focus sur le tournage. Enfin, c'était ce qui était le plus important pour moi, c'était que ça se passe bien pour eux et que ça se passe, voilà, qu'on trouve ensemble la manière.
Le chemin.
Voilà, le chemin vers le film. Mais c'est ce dont je suis le plus fière. Je veux dire, je suis très fière de comment ils ont réussi à faire ce tournage qui était voilà complètement inattendu pour eux.
Et s'approprier leur rôle.
Et voilà, et s'approprier leur rôle. Et je trouve qu'ils ont fait ça incroyablement bien, au-delà de mes espérances, et avec voilà beaucoup d'authenticité. Et en même temps, ils ont joué, quoi. Et c'était assez beau à voir.
Et puis en plus, on filme vraiment des paysages authentiques, magnifiques, de montagne. Le Jura, c'est très très beau, c'est vrai. Alors, on disait 98% de comédiens non professionnels. Pour toi, c'était une première aventure, du coup, cinématographique?
Ah oui, complètement. Première fois pour tout.
Comment on se sent? Premier jour de tournage, on arrive sur le plateau. Comment on prend ça?
Un petit peu perdu, stressé, mais après on avait une très bonne équipe. Louise a été très gentille avec nous, nous a très bien guidés, donc on s'est très vite mis à l'aise. Bon, il y avait des scènes qui étaient plus compliquées que d'autres à tourner, qui demandaient plus de préparation, et on a été très bien préparés. On a fait beaucoup de répétitions qui ont permis d'être à l'aise après derrière.
Toi, tu joues le rôle de la voisine, agricultrice. C'est ça?
Oui, c'est ça.
Chez qui Totone va essayer de...
De voler mon lait, voilà.
Chapardée.
Exact, c'est ça, ouais. Il va essayer de se lier d'amitié et d'amour avec Marie-Lise pour essayer de lui voler le lait. Et il va peut-être se faire prendre un peu à son propre jeu, en fait.
Pourquoi le Jura, Louise?
Alors moi, j'ai grandi dans le Jura, j'habite encore dans le Jura, enfin, voilà, c'est vraiment ma région. Donc forcément, on s'inspire aussi de ce qui nous entoure et j'avais envie de porter mon regard sur cette jeunesse avec laquelle j'ai grandi, dont j'ai fait partie aussi, et montrer tous ces décors de mon enfance, de mon adolescence, mais aussi tous ces événements très typiques de chez moi, mais qui doivent résonner avec plein d'autres ruralités aussi, parce qu'en fait, les balles, il y en a un peu partout. Les petites 50, je pense qu'il y en a d'autres qui se reconnaîtront aussi dans ces petites motos. Enfin voilà, il y a plein d'éléments, de détails, de choses dont je me suis inspirée, qui venaient de chez moi. Et quand on s'inspire de quelque chose qu'on connaît, ben, on peut apporter aussi plein de petits détails qui vont apporter aussi plus de vérité à son sujet.
Alors on va écouter la bande-annonce, ça s'appelle Vin Dieu, ça sort mercredi dans les salles et on revient juste après avec des scènes peut-être particulières, j'en sais rien, on va parler fromage évidemment parce que tu vas nous dévoiler, Louise, quel est le meilleur comté et à quelle maturité il faut le manger pour qu'il soit le meilleur. Allez, on va revenir avec tout ça dans un instant juste après la bande-annonce. Vin Dieu, c'est mercredi dans les salles.
Anthony, c'est ça ?
Toton.
Tu sais conduire un camion ?
J'ai déjà conduit celui de mon père.
C'est toi le nouveau ?
Oui.
T'es en retard, pas des grouilles, pas que ça va foutre.
Adieu ! T'es pas doué, toi.
T'habites tout seul ?
Avec ma soeur.
Alors ?
Vous en pensez quoi, vous, de celui-là ?
Qu'est-ce qu'il en sait, lui ? Il est là pour faire le ménage.
Oh, t'es gueule,
oh. Allez, casse-toi, c'est bon.
Honte !
Non !
T'as une sale tête.
C'est pas parce que toi tu peux pas que moi je peux pas.
Comment ça?
Quoi?
Tu fous, c'est quoi ce truc d'Obélix là?
Je veux du fromage. Si je me fais le comté d'or, je te le place 30 000 balles, mon gars.
Tu vas jamais la gagner, la médaille Toton.
Pourquoi?
Allez, de retour pour notre spécial Vin Dieu. Louise Courvoisier et Maïwenn Barthélémy sont avec nous pour parler de ce film qui raconte l'histoire de Toton qui est obligé de s'occuper de sa petite sœur suite à un drame. Sa petite sœur de 7 ans et pour essayer de s'en sortir financièrement. Alors avec l'aide, malgré elle, de sa voisine, il va tenter en tout cas le concours général agricole pour essayer de décrocher la médaille agricole du meilleur comté. Alors justement, parler de meilleur comté, Louise, il faut le manger à quel âge pour qu'il soit le meilleur ? Parce qu'il y en a qui disent, alors il y en a qui le préfèrent à 6 mois. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de goût à 6 mois. Mais alors à 18, 24 mois, qu'est-ce que tu conseillerais, toi, en tant que jurassienne ?
Alors, ça dépend pourquoi. Parce que nous, on mange du comté tous les âges, à toutes les sauces, à chaque repas. Ça dépend si on veut le mettre dans un plat, si on veut le déguster avec un verre de vin, si on veut le... Voilà. Il y a plein de manières de manger du comté. Nous, on le mange... En fait, il faut juste qu'il soit arrivé à maturation et ça peut être à 6 mois comme à 18. Évidemment, plus il est vieux, plus il prend en goût. Mais je suis pas la spécialiste non plus. Je pense que les spécialistes en parleront beaucoup mieux.
Alors, Maïwenn, justement, dehors du cinéma, alors, c'est quoi ton métier ?
Eh ben moi je suis donc je fais des études agricoles et donc je suis à moitié à l'école et à moitié sur une exploitation de vaches laitières en Haute-Saône.
Donc tu t'y connais en comté évidemment.
Eh ben pas forcément parce que moi c'est plutôt le gruyère du côté de chez moi. En Haute-Saône on fait du gruyère donc voilà.
Est-ce que cette première expérience Maïwenn t'a donné des envies de continuer d'aborder peut-être d'autres rôles?
Oui pourquoi pas. C'était une très belle expérience, moi je l'ai très bien vécu et pourquoi pas, faut voir après si on nous rappelle, si on nous propose quelque chose, ça sera à étudier.
Ça soit Clément, Luna, est-ce que eux en tout cas ont des envies aussi de continuer ce métier ? Est-ce que tu leur as donné ce virus, Louise ?
Alors moi, je les ai surtout protégés aussi du fait d'avoir trop envie de faire absolument du cinéma leur métier, parce qu'ils sont tous très ancrés aussi dans autre chose. Maïwenn vient de le dire, elle travaille dans une ferme aussi. Clément travaille dans une ferme, mais plutôt autour de la volaille, lui. Et voilà, ils sont aussi heureux dans ce qu'ils font, ce qui n'empêche pas que je pense qu'ils seront curieux d'un projet ou un autre, et que si c'est le cas, je les accompagnerai aussi pour que ça se passe bien pour eux, parce que le cinéma est arrivé un peu brutalement dans leur vie, et on a essayé d'accompagner ça au mieux, mais je trouve que c'est important de bien accompagner ces comédiens qui sont arrivés un peu là sans l'avoir choisi au début, dans d'autres expériences. Et je leur souhaite en tout cas de faire d'autres projets si c'est ça qui leur donne envie, tout en restant ancrés dans ce qu'ils font aussi. Ils sont tous très ancrés dans des milieux agricoles que je trouve aussi très important pour eux.
Il y a un mélange dans Vin Dieu, évidemment, alors de drame hein, avec ce qui arrive à Toton, mais aussi saupoudré de touches de comédie aussi au fur et à mesure. C'est important aussi. Et du coup, ça crée un ascenseur émotionnel hyper agréable pour le public.
Oui, alors c'était toujours très important pour moi que le film soit pas plombant, parce que en fait, il y a pas de raison, même si c'est un film avec une réalité sociale parfois difficile, ça n'empêche pas qu'il y ait plein de moments de légèreté aussi, et cet équilibre-là, depuis le début, c'était important de le trouver au scénario, de trouver le bon équilibre, le bon ton. Et j'avais envie que ce soit un film généreux, aussi généreux pour le public et généreux pour la population dont il parle, quoi. J'avais vraiment besoin de cette légèreté là, mais tout en n'hésitant pas parfois à rentrer dans des choses plus profondes aussi. C'était important.
Maïwenn, est-ce qu'il y a une scène particulière pour toi qui était difficile ou t'appréhendais?
Je pense les scènes d'intimité qui étaient un peu gênantes pour nous, un peu stressantes plutôt, je dirais, mais qu'on a réussi à faire très bien. Le vélage, qui était très stressant pour moi parce que je voulais vraiment bien le faire, et ça a été réussi.
Elle était guidée, justement. Il y avait un vétérinaire sur place, j'imagine.
Alors, il y avait l'agriculteur.
L'agriculteur.
Voilà, dont c'était les vaches, qui était là au cas où. Mais Maïwenn connaît très bien les gestes. Elle avait déjà quand même accompagné beaucoup de vélages. Mais c'était très important parce qu'on n'avait qu'une prise. Donc, il fallait pas la rater. Il fallait pas la rater. Donc, il y avait un peu une pression autour de ce moment-là. On a essayé de se préparer au mieux avec, on utilisait mon chien comme veau pour préparer la scène. On a été très sérieux dans la préparation de la scène pour que, une fois que ça venait, elle puisse se concentrer sur les gestes et que le reste de la scène soit naturel, quoi. Mais c'est vrai que c'était un gros enjeu, et pour Maïwenn c'était important parce que c'était la scène qu'elle avait envie le mieux de, enfin voilà, elle avait envie
de réussir.
Voilà, c'est ça.
Bon, c'est chouette. En tout cas, tu vas garder un bon souvenir du coup, Maïwenn, de tout ça.
Ah oui, oui, un très bon et grand souvenir. Oui, oui. C'était une sacrée aventure qui n'est pas finie.
Dans 2 jours, en tout cas, cette aventure va appartenir au public. Louis, c'est toujours un peu stressant quand le film comme ça s'en va, nous échappe.
Ouais, c'est un travail qui se fait petit à petit, quoi, d'apprendre à lâcher. Et maintenant, il m'appartient plus, quoi. C'est aux gens de se l'approprier. Et ça, je trouve ça incroyable que chaque expérience de chacun puisse résonner ou pas avec le film, et que le public se l'approprie. Pour moi, c'est un très beau moment, mais évidemment, qui fait un petit peu peur aussi de lâcher son bébé comme ça. Mais je suis très heureuse de pouvoir le partager avec le public.
Tu prépares la suite ou pas? Est-ce que tu prépares déjà un nouveau film? Est-ce que tu as des projets?
Alors, un peu malgré moi, il y a des choses qui arrivent.
Malgré moi, j'aime bien le malgré.
Bah, parce qu'on essaie de se dire, bon, allez, faisons une coupure et laissons la vie revenir aussi. Ouais, pas, la vie, c'est pas que le cinéma. Il faut aussi s'inspirer de ce qui nous arrive et pas forcer les histoires non plus. Voilà, je trouve c'est important de vivre et de se laisser inspirer par la vie aussi. Mais quand on a passé autant de temps à raconter une histoire, c'est pour ça que je dis malgré moi, il y a des idées qui viennent la nuit de manière, voilà.
Te hanter.
Me hanter. Donc petit à petit, ça mûrit, et sûrement que voilà, je vais travailler encore sur un prochain sujet.
Bon, mais on se dit à bientôt en tout cas. Vindieu, c'est mercredi dans les salles, et je vous remercie à toutes les deux en tout cas d'être passées nous voir pour nous en parler. Merci Louise, merci Maïwenn.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre invité d'honneur aujourd'hui, c'est Nadia Rose qui nous rejoint dans Chute, on écoute la télé. Bonjour Nadia.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Quelle actualité riche et remplie ce soir à 22h10 sur TF1. C'est le grand final de Escort Boy qu'on va pouvoir découvrir sur TF1. Yannès et Ryan, dont le tournage vient de se terminer du côté de Rochefort. Et puis surtout, on a découvert samedi soir à 20h30 la nouvelle série Nos meilleures années sur M6. Une nouvelle série événement. On a reçu Yann, le créateur, la semaine dernière. On avait promis qu'on t'aurait. Merci d'être là en tout cas pour nous parler de cette belle série.
C'est un bonheur pour moi d'être là avec vous. On écoute la télé et écoutez les petits bisous que je vous fais.
Ça fait plaisir de te retrouver parce qu'on s'était vu pour tes spectacles. Alors, il y a une belle tournée aussi qui nous attend en 2025 avec toi, mais on va déjà parler de nos meilleures années quand même, puisque là on va retrouver 3 familles. Donc toi t'incarnes justement la maman dans la famille 2020, et on a des liens qui se font à travers le personnage de Françoise, justement entre les années 70 et 2020. J'espère que vous avez découvert la série samedi. Si vous ne l'avez pas découvert, je vous encourage à aller sur M6+, maintenant.
Oui, foncez, il y a les replays. Oui, oui, allez voir ça, parce que franchement, nous, on s'est vraiment beaucoup marrés à le faire. Et à regarder, j'ai regardé quelques épisodes, j'ai eu la chance de les voir aussi. C'est trop marrant, quoi. Ce qui est chouette, c'est que donc, c'est sur 3 époques, nos meilleures années. Il y a 3 foyers, un dans les années 60-70, un dans les années 80-90 et un de nos jours. Donc moi, je suis effectivement... je fais partie du couple avec Loïc Legendre, le couple contemporain. Mais ce qui est formidable dans cette série, c'est que les époques se croisent, se répondent. On aborde plein de problématiques. C'est la première qui me vient à l'idée, mais l'évolution des droits des femmes, la technologie.
L'écologie.
Et on se marre beaucoup parce qu'on voit les mœurs évoluer. Et puis, c'est très familier, quoi. Voilà, c'est une Madeleine de Proust, c'est un voyage dans le temps. On se replonge dans l'époque de nos parents, de nos grands-parents, pour notre propre époque si on est un petit peu vieux. Et non, mais vraiment, allez-y, foncez, vous allez vous marrer.
On va parler de Leïla.
Oui, Leïla qui est gendarme et maman dépassée un peu, jeune maman. Et il se passe plein de choses dans cette maison puisque c'est un couple recomposé, puisqu'on est dans l'époque moderne, ce sont des choses qui arrivent. Et donc oui, c'est un deuxième mariage, une deuxième union qu'elle a avec son tendre époux. Et ils ont une petite fille, un bébé, une fille un peu plus grande. Et il y a encore la plus grande qui est la fille de Loïc. Et donc, il y a cette problématique de famille recomposée, d'organisation, des plannings, de la gestion des ex, il se passe plein de choses, c'est très marrant.
Et on a vu que Leïla n'hésite pas à mettre les pieds dans le plat et aller juste à coller des PV à son mari quand même.
Bah oui, elle est très à cheval sur la loi, donc faut pas déconner. Bah oui, parce qu'il s'était mal garé, je crois, c'est ça? Je crois
qu'il a grillé un feu rouge.
Ah, il a grillé un... Bah c'est pire!
C'est drôle, mais il y a plein de sketchs hyper drôles comme ça, et qui à la fois, moi je trouve ça intéressant de faire un peu réfléchir sur l'évolution de nos mœurs, de nos sociétés à travers le rire comme ça.
Ouais ouais, c'est un vrai régal. Ça va dans tous les sens. On a ce côté troupe, je trouve, sur ce plateau qui, avec comme on est nombreux au plateau, que ça fuse, ça s'échange, et puis il y a des générations, c'est-à-dire qu'on a des gamines avec nous, on a des vieux, puisque Françoise est vieillie, qui est interprétée par Agnès Miguras, elle est la maman dans les années 80 et elle fait donc la grand-mère de nos jours, et donc elle est vieillie par ordinateur. Vous allez voir ça, c'est très impressionnant, je trouve. C'est bien fait, ça ne se voit pas.
C'était vieillie par ordinateur, carrément. Non mais c'est énorme, moi je croyais que c'était du maquillage.
Eh ben non. Et il y a un petit peu d'intelligence artificielle là-dedans. C'est très... C'est bien que vous l'ayez pas
vu. Ah, c'est super bien fait.
C'est très fin. Et donc voilà, les générations se croisent, se répondent. Cette mamie, elle est très moderne, elle est même plus moderne que ses gamins. C'est marrant, ouais, c'est original.
C'est une maman stressée quand même un peu, Leïla. Hein.
Un petit peu, bah oui, mais c'est normal, avec toute la charge mentale qu'elle a, la pauvre. Tout ce qu'elle doit gérer, en plus de son travail qui est très exigeant. Et puis oui, elle a cette folie, c'est-à-dire qu'elle est très carrée, un peu maniaque. La loi, c'est la loi, etc. Et puis elle est dépassée par la réalité. Parce qu'on peut, se mettre toutes les règles qu'on veut, mais quand on a des gamins dans tous les sens et que la vie nous rattrape et nous secoue, ça crée des situations très drôles, ouais.
Et Escort Boy, ça c'est ce soir sur TF1, le final. Vous avez peut-être vu les trois premiers épisodes la semaine dernière ou vu la série sur Prime Video. En tout cas, c'est très drôle, alors que la saison 2 va démarrer bientôt en tournage, qu'on va découvrir bientôt. Ça y est, il est fini la saison 2. Allez, vous rigolez pas.
Oui, on vient de finir le tournage, là, juste avant Nesser Ayan, j'ai fini le tournage de la saison 2, où il se passe aussi plein de choses super intenses. Mais bon, parlons déjà de la saison 1 qui se termine sur TF1. Ouais, un final en feu d'artifice, avec des guests de plus en plus flamboyantes, prestigieuses. Et des situations très drôles. On explore plein de domaines de la sexualité, des relations humaines, et puis aussi sociales. Je trouve c'est ça qui est bien dans cette série, que j'adore, avec tous ces personnages riches, beaux, enfin riches intérieurement, hein, pas riches. Non, justement, s'ils étaient riches, ils feraient pas ce qu'ils font,
puisque voilà, c'est quatre garçons qui vont faire de l'escorting pour arrondir en fin de mois et mener main de maître par la sœur de l'un d'eux, qui est incroyable. Marisol Fertard, elle est géniale aussi.
Ouais ouais, elle est géniale, elle est solaire, elle est incroyable, et son personnage se déploie aussi dans la saison 2. J'ai hâte que vous puissiez la découvrir. Et puis justement, si on est sur la fin de la saison 1, vous allez découvrir que mon personnage, le personnage de Nora, va prendre une autre dimension là dans les derniers épisodes, qui ouvre la saison 2, et là il se passe plein de choses vraiment super.
Nora va prendre importance un peu dans la saison 2, justement.
Justement, ouais, mon personnage a été très très développé pour la saison 2, enfin très très. Elle va vivre des choses, elle va vivre des drames, elle va prendre des choses en main, et c'est très chouette. On s'est vraiment marré à faire ça, et puis avec ce casting idyllique, que des moches en plus, vraiment, Corentin Fila, Guillaume Labbé, Thibaut Evrard, j'oublie qui.
Simon Rachet.
Le plus moche, j'oublie toujours le plus moche. Simon Rachet, Marisol Fertard. Enfin voilà, Ruben Alves à la réalisation. Ouais, c'est un vrai bonheur ce tournage.
C'est un véritable génie ce réalisateur. J'aime beaucoup le travail de Ruben, effectivement, aussi, à Nadia. Et tu viens tout juste de terminer le pilote d'une nouvelle série pour France 2. Mais disons, tu ne chômes pas, ça n'arrête pas. Ness et Ryan, toute nouvelle série. Peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on espère. En tout cas, c'est un pilote pour l'instant qui vient de se finir en tournage. Et on espère vous retrouver un peu comme César Wagner sur 2-3 épisodes par an, comme ça. Avec des enquêtes bien ficelées, avec un Ryan que tu vas un peu clouer au pilori.
Oui, voilà, c'est un peu un film dans la tradition des flics et voyous, quoi. C'est-à-dire que je vais prendre sous mon aile ce gamin qui marche pas tout à fait droit parce que la vie lui a pas fait de cadeau. Il a des tiges à faire, des travaux d'intérêt généraux. dans mon bureau, ça m'arrange pas. Et donc et moi pour des raisons physique, j'ai besoin d'assistance et c'est lui qui va me prêter assistance. Donc voilà, on va être partenaire malgré nous. Il va m'accompagner dans mes enquêtes et ça va générer plein de situations drôles, touchantes, parce qu'elle vit aussi, mon personnage de Ness vit un drame personnel, une rupture déchirante. Voilà, on a tous les ingrédients pour s'attacher à ces personnages et faire un voilà, il y a toute l'enquête aussi qui est passionnante. On s'est bien amusé à faire ça aussi, ouais.
Et un film au cinéma début février.
Oui, le 19 février, un film qui s'appelle Avec ou sans enfants, réalisé par Elsa Blayot, une super comédie, donc qui sort bientôt au cinéma aussi. Donc ça, je suis très contente. On a tourné ça dans les Pouilles, en Italie, dans un décor magnifique. Ouais, une comédie familiale très très drôle, avec ou sans enfants, c'est-à-dire que donc c'est un mariage, on est invité, mais on doit venir sans nos enfants. Et évidemment, on va tous venir avec, parce qu'on a tous eu des galères. Et donc on va pourrir ce mariage.
Et la tournée qui continue pour Nadia Rose, évidemment, partout en France. On va écouter un extrait de Nos meilleures années. Juste après, je vous donne toutes les dates où Nadia, vous allez avoir la grande chance de l'avoir passé près de chez vous. Merci beaucoup, Nadia, en tout cas, d'avoir été avec nous. Ce soir, on rappelle 22h10, c'est Escort Boy, juste après Cat Size, à ne pas manquer, bien évidemment, avec le grand final des trois derniers épisodes de cette première saison. À bientôt.
À bientôt, merci beaucoup.
Nouveauté.
Tu fumes?
Enfin, tu te comportes comme un vrai bonhomme.
Et c'est combien de temps l'omelette au four?
C'est une blague de votre fils, le coussin péteur.
Ton grand-père aurait été tellement fier de toi.
Trois époques. Une famille.
Tu mettras bien tes patins. Je viens de finir de cirer le parquet.
Nouveauté, Nos meilleures années, samedi à 20h25 sur M6.
Et pour retrouver Nadia Rose près de chez vous, elle passera à Nice le 11 avril prochain, à la Chapelle Saint-Luc le 17 mai, à Tours le 22 mai, à Clermont-Ferrand le 7 juin. Elle sera à la Cabane au Hall de la Cartoucherie à Toulouse le 30 janvier 2026.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, on va parler spectacle, on va parler héroïne. C'est le premier spectacle, premier one woman show de celle qui vous fait tellement rire dans Tropic Criminel avec Gaëlle Crivelli. Béatrice de la Boulay, eh bien, monte sur scène pour la première fois pour nous présenter un superbe spectacle où on rit, il y a de l'émotion, il y a plein de choses, ça gigote dans tous les sens, ça vit. Quel bien, Béatrice.
Ben merci.
Alors écoute, c'est vrai que ce spectacle, en tout cas, fait du bien. On passe quasiment une heure et demie, en tout cas, à rire. Mais il y a aussi beaucoup de moments d'émotion, parce que tu te racontes beaucoup aussi dans ce spectacle, évidemment. On part quasiment depuis le début, l'enfance, tes parents, tout le monde. Tu te racontes vraiment là-dessus. Qu'est-ce qui t'a donné le déclic, l'envie, justement, d'aller sur scène?
Ben, en fait, c'est un accident de ma vie et fait tellement de hasard que je chope au vol. Et ce spectacle en fait partie parce que on devait à la base faire un spectacle, un Molière pour un théâtre. Et puis ça n'a pas marché pour de multiples raisons, mais la date était bookée. Et du coup, ma cousine qui travaille avec moi me dit « vas-y toute seule ». Et là, je dis « comment ça, vas-y toute seule ?» Et donc voilà, donc c'est un peu né comme ça par hasard, mais d'une vieille envie que j'avais d'essayer le One Woman Show quand même. Et du coup, d'un spectacle où j'ai commencé à parler des héroïnes, de Molière à Rihanna, c'était ça mon premier fil rouge. Et ben, on arrive à ce spectacle un an après, qui est beaucoup plus personnel et effectivement où il reste plus beaucoup d'héroïnes, de Molière il en reste plus qu'une et puis des autres très peu aussi. Mais parce que j'ai trouvé un vrai plaisir à parler de thématiques qui sont pas si personnelles que ça, parce que j'ai l'impression qu'elles sont quand même très universelles quand je les raconte en public. Beaucoup de gens s'y retrouvent en fait.
Mais il faut dire que les femmes en prennent un peu pour leur grade quand même, hein, au tout début.
Oui, les hommes...
Quelques comptes à régler.
C'est pas un compte à régler parce que en vrai c'est aussi une ode aux femmes, ce spectacle, c'est une envie de réconciliation aussi, mais c'est pas un compte que j'ai à régler avec les femmes. C'est un constat que les femmes sont très dures entre elles et que dans un moment où on nous demande d'être très solidaires, etc.
On parle beaucoup de sororité.
Voilà, on parle beaucoup de sororité. Je trouve personnellement que c'est pas si évident. Alors, dû à mon parcours aussi que je raconte dans le spectacle à cause d'un drame qui s'est passé au collège et qui m'a été vraiment, que j'ai subi à cause des femmes. Donc, je me suis toute ma vie beaucoup plus méfiée des femmes que des hommes, contrairement à ce qu'on entend quand même beaucoup aujourd'hui. Et je pense que du coup, ça rejoint complètement la cause dont on parle aujourd'hui, mais dans le sens où pour être solidaire, il faut aussi résoudre plein de choses sur lesquelles on met pas encore tout à fait le doigt. Et effectivement, la rivalité féminine en fait partie. En fait, je me suis rendu compte que la misogynie, c'est pas un syndrome uniquement masculin, en fait. Les femmes sont assez misogynes entre elles. Et je suis un peu la seule à en parler en ce moment. Mais non, c'est pas, enfin, en tout cas, j'ai pas l'impression de régler mes comptes. J'ai l'impression de raconter mon cheminement. Mais...
En tout cas, c'est le spectacle de la réconciliation. En voilà, tout cas, parce qu'on sent vraiment, que justement, t'es complètement réconciliée, justement, avec le monde féministe, des femmes et avec beaucoup, beaucoup aujourd'hui d'héroïnes, justement. Parce que c'est aussi ça, c'est une ode aux héroïnes de ta vie.
Et aux copines aussi, que je n'ai pas eues pendant tellement longtemps. Oui, c'est une ode à l'amitié féminine dont j'ai été privée pendant très longtemps.
Ouais. Bon, Sonia rattrape bien. Parce que je vois, vous êtes tellement, mais comme les deux doigts, franchement, de la main, que vous êtes tellement liées toutes les deux avec maintenant presque sept saisons de Tropic Rinel, puisque vous allez partir tourner la septième fin mars.
Absolument, on part tourner la septième. On a tellement de chance, c'est tellement idyllique, le contexte, la Martinique, notre duo, l'équipe. C'est un rêve éveillé, ce tournage. On est très
gâtés. Plaisir quand tu vois parmi tes spectateurs, justement, qui connaissent tous Gaëlle et que justement c'est peut-être grâce à ce personnage qu'aujourd'hui ils ont la curiosité de venir te voir aussi sur scène. Ça doit servir ça.
J'ai énormément de gratitude de vis-à-vis de l'émission, de cette, enfin de voilà, de la série. Je sais que il y a beaucoup de gens qui viennent par curiosité et d'ailleurs très gentiment après le spectacle, souvent ils disent ah ben vous êtes la même, vous êtes la même qu'à l'écran. Voilà, ben j'essaye d'être aussi sincère à l'écran que sur scène, donc ça se retrouve forcément un peu. Et ouais, c'est génial, ça remplit, Tropic Criminel remplit les salles, ouais, ça c'est chouette.
Alors tu parles aussi de choses très personnelles, la maladie aussi, et c'est vrai que c'est quelque chose de difficile, que tu parles sur scène, tu te livres vraiment à cœur ouvert là-dessus, même si à l'époque voilà t'as dû vivre le moment à l'abri justement de tout ça, parce que c'est tombé en plein Covid. Mais en tout cas aujourd'hui voilà, comment tu vas? Comment tout ça s'est passé?
Donc j'ai eu un cancer du sein entre la saison 2 et la saison 3 de Tropic, et il a été express, hein, vraiment, ça a duré 15 jours entre le diagnostic et la solution qui a été donc une mastectomie. Voilà, j'en parle avec pas mal d'humour, je crois, parce que aussi j'ai envie qu'on puisse prendre avec légèreté les cancers qui sont gérés tôt, en fait, dans le sens où, bien sûr, c'est jamais rigolo de perdre un sein, mais en même temps c'est un message d'espoir que j'essaye de donner en faisant rire là-dessus, parce que j'ai envie de dire aux gens d'aller se faire dépister, en fait. Le dépistage précoce, c'est ce qui peut sauver des vies, du temps, et voilà. Et donc
c'est un très beau message, avec Octobre Rose en plus le mois dernier.
Exactement. En tout cas, je raconte mon histoire. Évidemment, il y a plein d'histoires qui sont beaucoup plus lourdes et dramatiques, etc., dans les histoires de cancer. Et Dieu sait que j'ai croisé des femmes qui avaient eu des histoires beaucoup plus lourdes que la mienne. Mais justement, mon propos est de dire, dépistez tôt un cancer, ça peut être aussi con que les ligaments croisés, quoi.
Voilà. En tout cas, sous le trait de la rigolade, il y a plein de beaux messages qui passent dans ce spectacle. Je vous conseille vraiment, si ça passe près de chez vous, allez voir Héroïne. Ça se joue le mardi et le mercredi au Théâtre du Métropole à Paris. Ça se jouera le 9 janvier à Toulouse, le 23 janvier à Auray, entre Vannes et Nantes. Ça se jouera le 2 et le 3 février à Uzès, dans le Gard, et le 7 mars au Blanc, dans l'Indre.
Tout ça par cœur, mais
t'as vu ça un peu? Non, mais je lâche rien. Et puis, alors, il y a plein de dates, toutes les dates sur ton Insta.
C'est du par cœur, le gars a une mémoire incroyable. C'est fou, tu m'épates.
Mais oui, parce qu'on te suit. Puis après, attention, à partir de fin mars, tu pars en Martinique. Voilà, et j'espère que tu vas jouer à Fort-de-France.
Figure-toi que j'ai voulu le jouer cette année, que ça a été une galère. On n'a pas réussi, mais là, il n'y a pas photo. Je joue à Fort-de-France le spectacle en 2025. C'est impossible autrement.
Bon, on va écouter un petit extrait. Tu reviens au mois de avril, mais je pense que ça va être à peu près dans ces eaux-là, le lancement de la nouvelle saison de Tropic Criminel. Avec Sonia Roland, vous viendrez toutes les deux pour nous parler évidemment de cette nouvelle saison qui arrive, qui sera sous le signe de l'amour. Mais on n'en dit pas plus, tu reviendras. Merci beaucoup.
Avec grand plaisir.
À très vite.
À très vite.
Héroïne, femme qui fait preuve de bravoure, de vertus exceptionnelles, qui se dévoue à une cause.
Vous aimez bien les jeux de mots ou pas? Moi je m'en fous, j'adore ça. Et je vous préviens que c'est pas le dernier. Comme ça, vous êtes au courant.
Me faire refaire un petit peu les seins, quoi. Bon, bah voilà, la quarantaine approchante, j'avais allaité ma fille, disons qu'elle avait perdu 2 étages, quoi. J'étais passée d'un beau 3e, avec monde au balcon, vue mer, à un rez-de-chaussée, vue nombril.
le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, on va parler du film Diamant Brut qui vient de sortir dans les salles depuis quelques jours. On peut y découvrir la sensation du moment au cinéma, qui a fait sensation d'ailleurs, je crois, au Festival de Cannes. Malou Kebizi qui est avec nous. Bonjour Malou.
Bonjour.
Et accompagné par sa maman de film, Andrea Bescon, qui est une habituée de l'émission. Bonjour Andrea.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous. Diamant Brut est sorti le 20 novembre dernier. C'est un film d'Agathe Riedinger qu'on peut suivre, où tu incarnes Liane, 19 ans, qui est un peu, on va dire, obsédée par la beauté et qui va trouver rien de mieux que de se lancer dans la télé-réalité pour essayer d'exister un peu aux yeux des autres. C'est une jeune fille qu'on a l'impression qu'a besoin d'être aimée de toute façon. Elle a trouvé ce moyen-là, mais en tout cas, c'est vraiment une quête d'amour aussi.
Oui, c'est sûr que c'est un film sur le besoin d'amour avant tout. Et c'est une jeune femme qui effectivement qui grandit dans un milieu extrêmement difficile. On découvre très vite aussi son environnement familial avec sa mère qui est une mère qui elle aussi est assez dévastée par sa propre vie. En tout cas, on le devine et elle s'occupe beaucoup de sa petite sœur aussi. Donc elle habite à Fréjus, qui est une ville frontalière à Saint-Raphaël. Donc on voit une grosse fracture sociale
entre Cannes et le golfe de Saint-Tropez, si je connais bien ma géographie.
Tout à fait, exactement. Et du coup, c'est quand même très loin des strass et des paillettes qu'on connaît de la Côte d'Azur. Et cette jeune fille, effectivement, elle voit une porte de sortie sur le monde de l'influence et de la télé-réalité. Et elle y croit très fort. Et on attend avec elle dans ce film.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, Andrea, dans ce rôle ?
Écoute, déjà, j'ai lu le scénario. J'ai vu qu'Agathe Riedinger ne portait aucun jugement négatif sur son héroïne qui est Liane, donc interprétée par Malou. Et j'ai trouvé ça vraiment déjà très soror. J'ai adoré la sororité qui se dégageait de ce scénario. Moi, évidemment, ça me plaisait aussi d'interpréter cette mère défaillante, que je ne juge pas par ailleurs. Hein. Je veux dire, on peut passer à côté de sa parentalité parce que la vie peut être très, très difficile. Et j'adorais interpréter ce personnage qui est vraiment comme une ombre. Et d'ailleurs, le personnage de Liane le dit, ma mère est une ombre. Et je voyais qu'en fait, Agathe Riedinger avait un axe très, très précis de l'histoire qu'elle voulait raconter. Et puis alors, quand j'ai rencontré Malou Kebizi, je me suis dit bon bah ok, ça va être merveilleux, parce que elle avait vraiment tout de suite la force et le charisme et la féminité, en même temps le côté très animal que nécessitait le rôle, quoi.
Manou, tu regardais toi déjà un peu la télé-réalité avant? Est-ce que tu t'es laissé influencer en quelque sorte, pour faire un jeu de mots, sur des personnages comme Nabila, comme d'autres?
Alors j'en regardais quand j'étais au collège surtout.
Tu regardais lesquels? Tiens, ça m'intéresse.
Alors je regardais les Marseillais, je regardais les Anges, je regardais les Ch'tis, enfin tout ce qui passait à l'époque. J'ai assez rapidement arrêté d'en regarder finalement, parce que je crois que j'ai assez rapidement réussi à prendre du recul sur toutes les valeurs qui étaient véhiculées dans ces programmes-là, qui sont extrêmement discutables. Enfin, la culture du viol, la compétitivité, l'harcèlement, c'est beaucoup de choses qui sont sur lesquelles je m'interrogeais, notamment une saison des Anges où Aurélie Preston se fait lyncher publiquement. Et en plus, c'est des programmes qui sont diffusés à des heures de grande audience, à des horaires de sortie d'école. Enfin, c'est quand même assez problématique. Et donc moi, j'ai arrêté d'en regarder, je pense, quand je suis passée au lycée à peu près. Par contre, Agathe, elle, pour préparer le scénario et aussi dans sa vie de manière générale, elle en regarde beaucoup, tous les jours, elle en regarde toujours. À la fois, elle est sidérée, et c'est ces mots, hein, elle est sidérée et fascinée en même temps. C'est une espèce d'attraction-répulsion.
C'est un phénomène, hein, c'est un phénomène de société aujourd'hui, la télé-réalité.
Bien sûr, et elle se questionnait beaucoup sur le pourquoi ça fait toujours rire, pourquoi on se moque toujours de la télé-réalité, alors que c'est, enfin, socialement, c'est hyper intéressant. Elle a fait un parallèle extrêmement intelligent avec les demi-mondaines du 19e siècle, les cocottes, et elle fait référence avec son personnage principal à Liane de Pougy, qui est une demi-mondaine qui a vraiment existé. Et ces femmes-là, ce parcours de femmes qui, grâce à leur corps, grâce à leur beauté, grâce à la mode, s'imposent dans la société et réussissent à passer des strates sociales, c'est ça qu'elle a voulu montrer. Et elle continue à regarder de la télé-réalité aussi parce qu'elle est fascinée par les candidates qui se présentent au monde de manière hyper puissante, et je crois que c'est ça qu'elle a vraiment voulu montrer avec ce personnage.
Ce qui est assez fascinant, c'est un peu ce qu'on peut remarquer souvent, c'est que les jeunes filles qui partent dans ce domaine-là, dans la télé-réalité, ont souvent justement un vécu familial compliqué. On peut le voir aujourd'hui avec la série Culte, par exemple, avec Loana qui, avec sa maman Violette, était vraiment une mère défaillante, en quelque sorte, qu'on juge pas non plus, mais qui a eu ses faiblesses, qui a certainement ses forces aussi. Mais c'est souvent le point de départ un peu quand même, cette maman derrière un peu défaillante.
Ouais, maman ou papa, hein, par ailleurs, c'est vraiment un système de famille. Après, c'est une porte de sortie comme une autre qu'offre cette société. Quand en, je sais pas, c'était en 99 ou 2000, quand Love Story est arrivé. 2001, pardon, bah, tu vois. C'était effectivement aussi une porte de sortie pour des jeunes qui se disent, bon, bah voilà, j'ai pas eu la chance ni de faire des études, ni d'être accompagné par des adultes bienveillants, et je n'ai pas la construction qui me permet de me dépasser aujourd'hui. Donc ça, je suis capable, et ça, je peux déchirer, et je peux aussi devenir quelqu'un, dans le sens quelqu'un d'aimer. Alors évidemment, à l'époque, on n'avait pas conscience de ce qu'allait devenir le cyberharcèlement. Mais Loana, on a fait les frais bien avant vraiment l'essor du net. Mais c'est aussi un endroit où tu peux exploser dans le sens positif. Nabila en a fait quelque chose. C'est encore une porte de sortie, en fait. Et en aucun cas, on se doit de juger ça, quoi. C'est la société qui le met en place.
On est bien d'accord. Et puis souvent, c'est toujours des jeunes filles ou des jeunes hommes qui sont en quête de cet amour, d'être aimés, tout simplement, et qui recherchent ça. Et c'est ce qu'on ressent chez Liane, en tout cas.
Oui, ça part forcément. Alors, ça peut être familial, mais pas que. Ça peut être lié à des traumatismes aussi. C'est une blessure d'amour avant tout, un manque d'affection et un besoin de reconnaissance extrêmement profond qu'on a tous, mais qu'on n'a pas forcément tous reçu dans notre enfance. Et du coup, on essaye de le combler chacun comme on peut. C'est très humain. Et c'est ce que traverse le personnage de Liane. Et pareil, elle essaye d'être aimée par sa mère avant tout aussi. Elle essaye d'être regardée. Mais sa mère, qui elle-même a cette blessure d'amour, elle a pas les armes pour lui donner.
Malou, le film a fait sensation au Festival de Cannes. Il est sorti maintenant il y a quelques jours. Est-ce que tu as justement des candidates, peut-être, ou des jeunes filles qui sont venues te témoigner, t'écrire justement et te poser des questions sur l'incarnation de Liane justement.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que avec Agathe, on a décidé, et enfin même pour le rôle d'Andrea, on voulait se baser sur personne d'existant et essayer de mimer personne, même s'il y a des références. Dans le film, à des candidates de télé-réalité. Moi, j'ai pas regardé télé-réalité pour préparer le film. J'ai rencontré aucune candidate pour éviter d'être dans la caricature aussi.
Tu t'es approprié Liane, tout simplement.
Complètement. Et du coup, j'avais quand même hâte d'en rencontrer, de voir comment ça allait être reçu chez les influenceurs aussi, qui est un métier qui fait polémique aussi. Et du coup, grâce à la sortie du film, grâce aux avant-premières qu'on a fait en amont, on a pu rencontrer effectivement des candidates. C'était très émouvant. On a rencontré deux jeunes femmes qui sont des lanceuses d'alerte de la télé-réalité. Je dirai pas leur nom parce que je suis pas sûre qu'elles soient d'accord, mais c'était très émouvant. Elles étaient très touchées et elles nous ont remerciées. Et je crois que c'est le plus beau compliment.
C'est clair. Alors, on va écouter un petit extrait justement de Diamant Brut. Ça s'est sorti depuis le 20 novembre au cinéma. Vous pouvez l'avoir encore évidemment dans certaines salles près de chez vous. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de vos cinémas. Je vous fais écouter ce petit extrait. De toute façon, d'ici quelques mois, le film sortira aussi en DVD et en VOD, bien sûr.
Coucou mes bébés, grâce à l'émission, vous allez vraiment m'aimer. Je suis un soldat et cette revanche, on va la faire ensemble.
Oui, Alexandra Ferrer, je suis directrice de casting pour la société Starshine qui produit des émissions de télé-réalité. Voilà, je vous appelle parce que la vidéo que vous nous avez envoyée nous intéresse beaucoup. Ce serait bien qu'on se rencontre. Vous me rappelez ?
Je m'appelle Liane Pougy, j'ai 19 ans.
Pourquoi tu veux faire de la télé-réalité ?
Oh, ça, c'est ma collègue !
Je vais devenir la Kim Kardashian française, tu vas voir.
Ça, j'aime trop, elle me chavire.
On vous fabrique un bagage pour que vous trouviez un vrai travail.
C'est un vrai travail, la télé. Il y a des contrats, je vous signale.
Je vois pas bien l'utilité de tout ça.
C'est utile, parce que ça fait rêver les gens. Elle fait 15 000 euros par poste.
Sur les réseaux, elle se fait terminer H24.
Il n'y a plus de mauvais buzz aujourd'hui.
Mon destin, je le travaille. Le reste, c'est Dieu qui donne, frère.
On est collègues de galère, toi et moi.
Je me rappelle de toi.
Ça va, le sang ?
Un peu le casting, là.
On s'est déjà part habillé normalement. On dirait une Barbie.
Regarde, il y a 50 000 personnes qui m'aiment, ok ?
Voilà, Diamant Brut, justement, que vous pouvez découvrir en ce moment au cinéma avec Malou Kebezi et Andrea Bescon, bien sûr, qui sont avec nous aujourd'hui. Alors Andrea, il y a pas mal de choses qui se passent pour toi aussi. Je sais que tu travailles un peu sur ton prochain film, t'es remontée sur scène aussi pour Les Chatouilles. Je sais que ça, c'est voilà le spectacle qui te tient à cœur depuis plus de 10 ans. On était déjà à tes côtés quand t'as sorti le film avec Eric. Et c'est vrai que ça, c'est une aventure absolument incroyable. Et t'es remontée sur scène un peu pour les dernières, là.
Ouais, bon, après, voilà, c'est quand même une aventure d'une vie, Les Chatouilles, pour moi. Forcément, on parle d'un trauma d'enfance qui a été sublimé par la scène, puis ensuite sublimé par un film. Donc j'avais envie de me réapproprier cette histoire, puisque je pense l'avoir, en tout cas sur scène, beaucoup joué sur l'épuisement. J'ai beaucoup joué à la création et je n'ai pas profité tant que ça. Et 10 ans après, je voulais aussi connaître l'ère post-MeToo, parce que je l'ai énormément joué avant MeToo, où les gens, les personnes, les victimes de violences venaient me voir après le spectacle pour me dire vraiment, Cathy Minnie, de manière très discrète, tu racontes mon histoire. Mais voilà, je ne l'ai dit à personne. Tandis que là...
tout a changé.
Ouais, tout a changé. C'est-à-dire que j'ai toujours brandi le poing comme ça, mais en petit. Puis maintenant, je lève le bras en l'air, le poing en l'air, comme ça, à chaque salut. Et à chaque salut, il y a... les personnes clament leur... ce MeToo, quoi, mais ouais, moi aussi, en fait, moi aussi j'étais victime de ça, et moi aussi je veux m'en sortir, et je fais tout pour m'en sortir, et c'est super beau de voir toute la force et la dignité qui émane de cette salle à chaque fois. Je suis très heureuse d'avoir repris. Bon, là, j'ai vraiment fêté ça cette année, hein, donc je fais, je sais pas, une cinquantaine de représentations entre Paris, Avignon, et à Bruxelles. Je reprends un peu une tournée avec mon acolyte Déborah Moreau, qui aussi avait repris le rôle. On va se partager un peu la tournée, faire pas mal de scolaires aussi, parce que c'est toujours intéressant d'aller parler à un public jeune. Et voilà, c'est une boucle après qui se termine. Et vraiment, je suis très heureuse de l'avoir repris. Et puis oui, j'écris un film en même temps. Enfin, là, on est en train de bosser, voir comment on distribue. On espère tourner l'été prochain. C'est toujours avec les films du kiosque. Ça s'intitule Amour, etc. Et c'est une histoire de femmes, trois femmes de trois générations différentes dans la même famille, qui ont pas mal de secrets, qui vont devoir se livrer sur le thème d'un road movie. Et j'avais envie d'aborder aussi le ton de la comédie. Et je me suis beaucoup amusée à écrire ça.
Malou, ça t'a rassurée pour un premier grand rôle au cinéma d'être épaulée, d'être accompagnée? Je vais pas dire une icône du féminisme en France maintenant, Andrea, mais quelqu'un qui défend la cause des femmes, Baek Zeong, depuis plusieurs années, qui a été peut-être la première à oser dire tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas. Est-ce que ça t'a rassuré, en tout cas?
Je crois que c'est au-delà de ça m'a rassuré. Moi, j'avais découvert les Chatouilles sur scène par Déborah, son nom de famille.
Ouais, Déborah Moreau.
Déborah Moreau, qui a joué les Chatouilles avant même de savoir que j'allais faire un film. Et quand j'ai su que c'était Andrea, je dis attends, mais c'est celle qui a créé la pièce des Chatouilles, c'est incroyable. Et je sais pas comment expliquer. Mais c'est comme la rencontre avec Agathe Rédinger, c'est une rencontre de trois femmes. On a créé un trio toutes les trois, très fort, assez inexplicable. Et c'est ouais, je suis extrêmement bien entourée. Je suis privilégiée d'être arrivée dans une équipe qui m'entoure, qui est bienveillant en permanence. Donc c'est magnifique, j'ai pas de mots.
Il y a des projets pour la suite. On parlait d'un road movie, peut-être d'un film avec Andrea. Peut-être que vous vous retrouverez, en tout cas on espère, dans une future aventure, parce qu'on sent en tout cas une très très belle alchimie entre vous deux.
Mais j'espère qu'on se retrouvera plein de fois, jusqu'au bout de ma vie.
On va faire déjà dévoiler le casting quand même, Andrea, on va laisser quelques surprises quand même.
J'espère qu'on se retrouvera, et puis après oui, il y a d'autres projets. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que j'ai envie de continuer, et je sais qu'il faut bosser, et je bosse, donc il y a des choses qui arrivent.
T'as bien raison, ça n'arrive que comme ça, on est bien d'accord. En tout cas, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à toutes les deux?
D'être heureuse.
C'est bien déjà.
Très heureuse.
Ah ouais, pareil. Franchement, avec le bonheur, il y a plein de choses qui viennent autour. Donc, ouais.
C'est génial. En tout cas, aujourd'hui, c'était deux diamants bruts qu'on avait avec nous aujourd'hui. Le film à ne pas rater dans les salles. Merci Manou. Merci Andrea d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à aller le voir. Si vous l'avez raté au cinéma, il sortira d'ici maintenant quelques semaines en DVD, VOD. Et puis, on va surveiller évidemment L'Amour, etc. 2026 probablement dans les salles. En tout cas, on sera à tes côtés, Andrea. Tu le sais comme d'habitude, en tout cas. Et puis Malou, on va te surveiller de très très près aussi. Tu seras bienvenue. À bientôt.
À bientôt, merci.
À bientôt, merci.
Allez, dans un instant, Baptiste Le Caplain nous rejoint dans Chut, on écoute la télé. On va parler de la sortie du film Jamais sans mon psy. Ça sera mercredi prochain dans les salles. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
K.O. En une heure à peine, tu m'as mis K.O. Je vais quitter la scène, étendre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève? Sortez-moi de ce mauvais rêve. Non mais allô, c'est trop facile de quitter comme ça le bateau et toutes nos promesses les foutre à l'eau. Je viendrai te chercher à la nage, reconnaîtrai ton visage même si ton cœur fait naufrage. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. Souviens-toi, ta personne préférée c'est t'aimes-moi. Même sur cette chanson j'entends ta voix, mais je peux plus y croire pour toi. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Je voudrais rallumer ta flamme, nous faire cramer de bonheur. Mon électrocardiogramme bat en fonction de ton cœur. Je voudrais créer un hologramme pour retrouver ton odeur. Mais je peux passer ça le drame, t'es ma 404 erreur. Tu dis que je suis rien qu'une enfant, mais on voulait deux enfants. On avait déjà leur prénom. Je voulais voir ton ventre rond. T'aurais recoupé ta frange et mélangé nos phalanges. T'aurais offert mes deux reins et même après tu te souviens. Tu sais quoi, je vais arracher tout ce qui parle de toi. J'apprendrai même si c'est pas mon choix. Ouais, t'as tout niqué cette fois. J'ai pas envie d'avoir 30 ans sans toi. J'ai pas envie de dire aux gens tout ça. Si c'est pas nous, moi j'ai pas d'autres plans. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? J'ai pas envie qu'on me dise que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Comment trouver le médicament? Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? Oh, t'as sali notre amour pour une putain de sorcière. Tu te rendras bien compte un jour que t'as tout foutu en l'air. Mon cœur qui va le recoudre, j'ai brûlé ta marinière. On avait eu un coup de foudre, t'es parti en un éclair. J'espère que tu penses à moi quand tu te perds dans son corps. Cette conne ne connaîtra pas le vrai toi qui valait de l'or. Et quand tu vas décaper ton petit cœur avec du chlore, c'est mon reflet que tu verras dans une piscine de remords. Que ça passera. Il faudra bien guérir du mal de toi. Mais dis comment trouver le médicament. Est-ce que tu vas me quitter encore longtemps? K.O. En une heure à peine tu m'as mis K.O. Je veux quitter la scène, éteindre le studio. Mais qui me relève quand c'est toi qui m'achève?
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré après un film historique et syntaxe et Louis Garrel. Eh bien, c'est aujourd'hui également Baptiste Le Caplain qui est notre invité. Deuxième coup de cœur ciné avec Jamais sans mon psy. Bonjour Baptiste.
Bonjour.
Alors, on a du beau cinéma aujourd'hui, hein. Franchement, on a de la comédie, on a de l'historique. Et là, on va rire avec Jamais sans mon psy, justement. Baptiste, tu y joues le rôle de Damien. Alors, c'est un garçon un peu au bout du rouleau qui côtoie un psy depuis 5 ans, qui fait pas grand effet, on va dire, hein, en quelque sorte, qui est interprété par Christian Clavier de manière évidemment toujours aussi géniale. Et puis, à un moment donné, le psy va dire « Stop, débrouille-toi, j'en ai ras-le-bol. » Et puis, un an va passer Et là, il va s'en passer des choses, puisque Damien va revenir sur le devant de la scène, mais de manière un peu inopinée et surtout inattendue pour le psy.
Ouais, c'est un très bon résumé. Tu l'as mieux résumé que moi, disons. Et ça fait un mois que je le résume. Oui, et je vais arriver, je vais revenir avec devant le docteur Béranger, avec sa fille, qui est ma nouvelle amoureuse. Et donc, elle me présente en tant que nouveau fiancé et potentiel futur gendre. Et évidemment, tu imagines bien que ça fait pas très plaisir au docteur Béranger de revoir son ancien patient. Mais du coup, il peut pas révéler que j'étais son patient, puisque tu as eu le secret médical, le secret et professionnel. Oui. Donc, on va jouer sur ce double jeu un petit peu. Et c'est, ça se passe le temps d'un week-end. Et donc, évidemment, Christian Clavier va me faire toutes les plus grosses vacheries, parce qu'il connaît toutes mes failles, toutes mes faiblesses, toutes mes blessures et mes faiblesses.
Mes blessures et mes faiblesses.
Ou à demi-mot. Voilà, c'est ça.
Exactement. C'est ça. Arnaud Lemort, qui est aux commandes du film à qui l'on doit déjà Ibiza, il y a quelques années, justement, qui est un fidèle aussi avec Christian Clavier. La rencontre avec Christian, j'imagine un peu, peut-être, toi, est-ce que t'as appréhendé un peu tout ça, ou est-ce que tu as été un peu, justement, à la cool comme Damien?
Ah non, je sais pas du tout à la cool. J'ai beaucoup appréhendé parce que j'étais très impatient de le rencontrer. Je l'ai rencontré le premier jour de tournage. Avant, on avait un mois de préparation, de lecture avec le coach de Christian Clavier. Je me suis préparé pendant un mois avec Jérôme Andréhi et j'ai découvert Christian le premier jour, le 23 mai 2023, le jour de mon anniversaire en plus. Donc, je voulais y aller discretos. Tout le monde me souhaitait mon anniversaire, c'était un enfer. Non, ça a été super. La rencontre a été vraiment chouette et on a démarré direct par le travail et Christian a vu que j'avais bien préparé mon rôle et tout. Donc, ça l'a fait, ce que Christian aime beaucoup. La précision, il aime le travail bien fait, il est très rigoureux et là-dessus on s'est bien entendu.
Et Claire Schoest qui est incroyable, hein, Claire, hein, on l'adore évidemment, vous la voyez peut-être dans Scène de ménage le soir, vous allez la voir dans un autre registre, elle est toujours aussi pétillante, c'est un bonheur aussi.
Ouais, elle est adorable, elle est aussi talentueuse que jolie, ça a été une partenaire de jeu formidable. J'ai eu un mois de casting moi pour avoir le rôle, j'ai dû batailler dur. Claire était déjà retenue sur le film, elle avait fait passer plein d'auditions à plein de comédiens avec Arnaud Lemort. Elle a été d'un grand soutien, Arnaud a milité beaucoup aussi pour que je sois pris dans ce film, mais Claire également, et ça m'avait fait très plaisir. On avait fait notre première journée de casting ensemble, et le soir elle m'avait envoyé un gentil message pour me dire « t'es celui que j'avais préféré », donc j'avais trouvé ça très mignon.
C'est génial.
Ouais, non, c'est une vraie belle camarade de jeu, et franchement elle est vraiment très très drôle. Scène de ménage, la formée, parce que Scène de ménage, il tourne des plans en séquence, c'est tourné pendant 2 minutes entièrement, donc il y a pas de montage, il y a pas de truc, donc elle a un rythme inné et je pense qu'elle va faire énormément de belles choses au cinéma, mais elle a déjà fait des très bons trucs. Moi, je l'avais vu dans Problemos, elle était déjà géniale, mais elle va encore faire de très belles choses, c'est sûr.
C'est clair. Comment tu définirais, toi, Damien, justement, mon cher Baptiste?
Oula, Damien, bah, il est fragile, hein, ce garçon, hein. C'est un jeune homme
sur la brèche, sur le fil.
Ouais, il y a un côté un peu Jérémy Ferrari, voilà, parce que je dis pas ça rapport à la première scène du film, mais il est un peu au bout du rouleau, mais il est touchant. Je pense que c'est quelqu'un qui se victimise aussi peut-être un peu beaucoup,
qui s'en amuse aussi.
Oui, et qui est sauvé par une femme qui l'aime. Je pense que c'est le lot de plein d'hommes sur Terre. Derrière chaque grand homme, il y a une femme, et je pense que Claire Schoest est cette personne. Mais après, c'est un garçon qui va pas bien, mais qui une fois qu'il y a moi j'aime bien le switch qu'il y a quand il y a l'arrivée du personnage de Ryan Bensetti. Là, on sent qu'il sort vraiment, il bombe un peu le torse, il devient un peu plus méchant même. Le côté un peu plus cynique de Damien m'a beaucoup plu à ce moment-là du film aussi. Donc c'est juste quelqu'un qui était un peu endormi, qui a besoin d'être secoué, quoi.
Ouais, Christian Arielli, Ryan Bensetti, un casting de fou, jamais son monde si. Ouais, Thomas VDB, j'allais y venir juste après parce que là il y a une scène hyper réjouissante avec lui. Mais d'abord, on va écouter la bande-annonce parce que jamais son monde si, c'est mercredi au cinéma, à tout de suite.
Vous n'allez pas sauter, Damien.
Les crampiers sont là.
Mais pourquoi vous les avez appelés? Ça fait 6 fois qu'il nous fait le coup, c'est un chantage affectif.
Je crois que j'ai enfin une solution pour vous.
Nous allons arrêter nos séances.
Non.
Et je compte bien vous revoir.
Ah ouais? Alors quand ça?
Quand vous aurez décidé de trouver l'amour.
Débarrassé. Je suis tellement contente qu'Alice vienne avec son nouveau chéri.
Moi aussi.
Non.
Sur nos 30 ans de mariage.
À chaque fois que je t'ai présenté quelqu'un, t'as pas pu t'empêcher de l'analyser.
Ça ne se reproduira plus, je te le promets. Je vais le chercher. Il demande des choses.
Oh la vache!
Docteur Béranger?
Damien, mais qu'est-ce que vous foutez là?
Voilà, pendant la bande-annonce, on était en train de chercher, mais évidemment, c'est Natacha Saint-Pierre et Pascal Obispo qu'on chantait tout à l'heure ensemble.
Tu me laisses! Mais ce serait tellement la bande-son du film en plus, parce que toutes les paroles correspondent à Damien.
Ça pourrait effectivement. Il a une scène, Thomas VDB, on disait juste avant la bande-annonce, elle est dinguissime. Comment t'arrives à garder ton calme là?
Alors, parce que la journée était extrêmement dense, que toute l'équipe était enfermée dans une bergerie qui sentait le caca, parce que c'était une vraie bergerie et ça sentait vraiment mauvais. Et avec Thomas, on s'est dit, la journée est longue, on peut pas se permettre d'avoir un fou rire et de retarder la journée. Et ça, c'est aussi des exigences qu'a Christian. Christian Clavier m'a dit, on n'a pas le droit d'avoir de fou rire, il faut qu'on soit les plus pros possible. Il faut que les comédiens principaux, s'ils envoient le message à toute l'équipe qui connaissent le texte, qui sont carrés, le film va rouler. On peut pas arriver en dilettant, on verra. Christian, il déteste ça.
Et surtout que ça tourne de plus en plus vite hein, au cinéma. Aujourd'hui, on se rapproche presque du rythme de la télé. Hein.
Oui, oui, exactement. Tu as tout à fait raison de dire ça. Et donc avec Thomas, en revanche, on s'est purgé en rire avant. Thomas VDB est le comique préféré des comiques, il faut le savoir. Moi, c'est un mec qui me fait hurler de rire. On était dans la montagne, dehors, on hurlait des trucs dehors avec l'écho de la montagne. Je vais pas te dire tout ce qu'il a dit, c'est pas diffusable, mais il a imité Hugolin dans Jean de Florette. Il dit, Manon, c'est Hugolin! Et donc, il imaginait un Hugolin très pervers et pas du tout classe. Il criait des insanités dans la montagne et ça résonnait. Les bergers en bas, ils disaient, mais c'est vous qui gueulez comme ça? Oh putain, j'ai fait une journée à rire et Thomas, bon voilà, s'il écoute ça, mais si un jour vous le croisez, demandez-lui de faire Hugolin en pas classe.
Je vais retenir, je te le dis, hein, Baptiste. Alors il y a aussi effectivement la phobie des oiseaux pour Damien. Alors il y a une scène avec des mouettes qui est drôlissime aussi. Hein.
Oui, alors il a énormément de phobies, mais je tiens à préciser que aucun animal n'a été maltraité dans ce film. Ce ne sont que des images de synthèse, des images numériques, parce qu'évidemment on va pas se faire attaquer par des mouettes, et je ne vais pas maltraiter un chardonneret.
On n'est pas dans Hitchcock.
Non. Mais, et puis non, mais c'était une grosse journée parce qu'on avait quand même un dresseur de mouettes qui était là. Au début, on a voulu faire la scène avec un seul oiseau, mais qui était un peu intimidé, je pense, de voir Christian Clavier sur le plateau. Et il a pas été très cool l'oiseau, donc on l'a laissé tranquille. Et ils ont recréé ensuite des images de synthèse en droite à gauche. C'était beaucoup mieux en fait.
Bon, il y a plein de choses pour toi aussi. On va découvrir, pour ceux qui l'ont peut-être pas vu au cinéma aussi, le premier film de Jim Belenfant qui va sortir en DVD, en VOD aussi. On avait eu l'occasion d'accueillir Cybelle, Marine et toute l'équipe justement cet été. Et on va te retrouver évidemment avec grand talent au cœur de cette histoire avec ses filles, avec ses sœurs aussi. Ça sera bientôt à découvrir si vous l'avez raté au cinéma. Et puis il y a les duos Impossible de Jérémy Ferrari. Vous remontez tous les trois sur scène aussi avec Arnaud et Jérémy. Et ça, c'est toujours aussi réjouissant de vous voir tous les trois sur scène.
Oui, on a une grosse année 2025 qui arrive. On démarre la répétition début décembre. Et oui, on devait faire 30 dates. On en fait plus de 70 finalement. Et je sais que sur cette tournée d'avant-première, beaucoup de gens se plaignent de pas avoir plus de place. Donc normalement, on devrait annoncer un truc qui devrait contenter quelques frustrés. On va essayer de faire une diffusion un peu plus large. Je peux pas trop en parler, mais on va essayer de faire un truc cool normalement pour essayer d'être vu le plus possible. Mais on a hâte de faire 6 mois de tournée tous les trois. Ça va être parce que là, les duos impossibles, on répète pendant des mois, on joue une fois et on arrête.
C'était 10 ans là.
Voilà. Et là, on a 6 mois pour améliorer le spectacle et en faire un truc cool. Et on est super content parce qu'on a fait la deuxième audience historique pour un spectacle vivant sur Canal. On reste derrière Florence Foresti, ma grande copine, donc je suis content. Comme ça, ma pote reste la number one. Moi, je suis numéro 2 avec mes copains, et c'est très bien. Mais on est super content, et on a hâte de jouer ce spectacle.
Jamais sans nombre, si c'est mercredi au cinéma, on ne le rate pas. On va se quitter avec un extrait. Et juste après, je vous donne justement toutes les dates de tournée de notre trio infernal qui passera près de chez vous en 2025. Je vous dis ça juste après. Merci beaucoup, Baptiste.
Merci à toi, merci beaucoup.
Et à bientôt.
À bientôt.
Allô, Stéphane, on voudrait t'inviter.
Oh, docteur Béranger, ça fait plaisir.
Alors, vous étiez un couple magnifique.
Papa,
c'est qui, Stéphane?
Je pense que je vais me marier avec lui. Oh,
c'est ça que vous cherchez, docteur?
Il a réussi.
Il n'est pas mal au cœur en voiture.
J'ai pas tout tétard du monde non plus.
Accrochez-vous.
Nous adorons les piments, on les sent plus nous. Vous, ça va? Pas de palpitations?
Vous vomissez combien de fois par jour?
Ils te mettent à l'épreuve.
Avec ces somnifères, tu vas bien dormir, mon grand.
Bah, le mieux, c'est que je m'en aille.
Qu'est-ce que ça brille? J'ai l'impression qu'on va passer un très bon week-end.
Et pour retrouver Arnaud, sa mère, Baptiste, Le Caplin, Jérémy Ferrari sur scène, ça se passera le 7 mars du côté de Montpellier, le 29 et le 30 mars à Nantes, le 9 avril à Pau, le 11 avril à Poitiers, le 25 avril à Limoges, le 10 mai à Narbonne, le 22 mai à Bordeaux et nouvelle date à Toulouse également le 23 mai. Encore en réservation.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, dans Chut, on écoute la télé, on évoquera Noël avec Père Noël à domicile, la fiction événement d'M6. Manu Joukla, le réalisateur, viendra accompagné de toute une flopée de comédiens à ses côtés. On aura deux coups de cœur cinéma avec Everybody Loves Touda et également le film Sarah Bernard avec Guillaume Nicloux. On recevra également Clémentine Poidatz pour Hors Limite et puis Bruno Salomon sera notre invité exceptionnel pour le prime événement de Fais pas ci, fais pas ça.
Le rendez-vous des stars. C'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chut, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android Chut. On écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chut, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chut, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Et retrouvez les boutiques, les ateliers de Langélis à Pontaillac, La Rochelle, La Cotinière et Bordeaux. Chut, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.